France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et nous sommes le mardi 22 octobre. Bienvenue sur France Inter et Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'échec de Benjamin Netanyahou qui renonce à former un nouveau gouvernement en Israël. C'est son adversaire centriste Benny Gantz qui va désormais tenter de trouver une majorité au Parlement. Nous serons en direct de Jérusalem dès le début du journal après les autres titres, Agnès.
Élection encore avec une victoire sans majorité au Canada pour Justin Trudeau et des incidents en Bolivie après l'annonce surprise de la victoire du président sortant Evo Morales. Le début des opérations d'évacuation des fûts endommagés de l'usine Lubrizol de Rouen. Mbappé, Griezmann, Lloris, Benzema en lice pour le Ballon d'Or 2019. Messi et Ronaldo aussi, mais pas Neymar. Et puis je mange, donc je suis. Une expo sur notre rapport à la nourriture à découvrir au Musée de l'Homme.
Et les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
On dit qu'il est un patron social. Sa parole est rarissime. Après avoir passé 7 ans chez Michelin, il est depuis 10 mois à la tête de Renault-Nissan. A-t-il réussi à tourner la page Ghosn? Pourquoi a-t-il viré son numéro 2? A-t-il découvert une entreprise qui allait moins bien que prévu? Jean-Dominique Senard, PDG du groupe Renault-Nissan, est notre invité à 7h50.
A tout à l'heure, Léa. 8h20, le grand entretien de la matinale aujourd'hui avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
France Inter.
Il a donc jeté l'éponge le jour de ses 70 ans. Après plus d'un mois de tractations, le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, n'a pas réussi à former une coalition majoritaire au Parlement. Le président israélien va donc se tourner vers Benny Gantz, dont le parti bleu-blanc était arrivé très légèrement en tête lors des législatives du 17 septembre dernier. Benny Gantz aura 28 jours pour relever le défi. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Jérusalem. Alors, Benny Gantz peut-il réussir là où Benjamin Netanyahou a échoué?
Alors, ses chances sont minces, mais il peut miser sur un changement d'époque, sur la fin des années Bibi au pouvoir sans interruption depuis 2009. Netanyahou n'est jamais apparu aussi faible. C'est la première fois depuis presque 12 ans qu'une autre personnalité que lui est chargée de constituer un gouvernement. Il risque d'être inculpé pour des affaires politico-financières. Il est réputé autoritaire. Il est fâché avec les médias et la justice. Gantz peut donc jouer la carte d'un pouvoir apaisé. Alors, soit Gantz convainc la droite de faire alliance avec lui et de sacrifier Netanyahou, soit il constitue un gouvernement minoritaire, mais avec l'abstention bienveillante des députés arabes et de certains nationalistes, il pourrait aussi finalement accepter l'union nationale avec Netanyahou, sachant que désormais n'importe quel député peut aller voir le président et dire « voilà, j'ai une majorité ». Reste le blocage complet et alors une troisième élection en moins d'un an, et ce peut être un argument pour le centriste Gantz, car ici, tout le monde en a un peu assez.
Et oui, il y a effectivement urgence, Frédéric, à trouver une solution politique.
Oui, parce que le contexte régional est difficile avec les tensions autour de l'Iran et le départ américain de Syrie. Et puis à l'intérieur, l'économie israélienne ralentit, croissance à la baisse, déficit en hausse, sans oublier l'extrême droite qui multiplie les violences. La semaine dernière, des dizaines de jeunes juifs ont agressé des arabes en plein Jérusalem. Et hier soir, des colons israéliens ont attaqué des militaires israéliens dans le nord de la Cisjordanie.
Merci Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem ce matin pour France Inter. Au Canada, Justin Trudeau est en passe de décrocher un deuxième mandat, mais sera à la tête d'un gouvernement minoritaire. Si les résultats se confirment, nous serons en direct de Montréal dans le journal de 8h. La tension monte en Bolivie après l'annonce du nouveau décompte de la commission électorale qui affirme que le président sortant Evo Morales a suffisamment de voix pour remporter l'élection présidentielle dès le premier tour, contrairement à ce que laissaient présager les premières estimations à l'issue du scrutin de dimanche. Le principal opposant, Carlos Mesa, parle de fraude. Les observateurs de l'Organisation des États américains font part de leur inquiétude et de leur surprise. Des incidents éclatent en ce moment même dans plusieurs villes du pays. Et puis au Chili, la contestation sociale ne faiblit pas. Nouvelle manifestation à Santiago, malgré le couvre-feu et la mort de 11 personnes en 3 jours. Le président qui s'est adressé à la nation va réunir tous les partis politiques dans l'espoir de trouver des solutions concrètes.
Il est 7h05, l'actualité en France, Agnès, avec une journée de mobilisation des agriculteurs.
Qui s'estiment victimes des traités de libre-échange, de l'agribashing et des pressions toujours plus fortes de la grande distribution. Des manifestations et des opérations escargots sont donc prévues tout au long de la journée. Le ministre de l'Agriculture a lui-même reconnu reconnu hier que la loi alimentation n'avait pas permis pour l'instant de rééquilibrer les relations entre producteurs, industriels et distributeurs. Un exemple avec la société Lactalis, dont les comptes, enfin rendus publics, vont être scrutés de près, Emmanuel Ruffez.
Lactalis devait déposer ses comptes annuels avant le 31 août cette année. Finalement, ce sera début octobre. Peu importe, c'est fait, notre demande a abouti, se félicite aujourd'hui Nicolas Giraud, le porte-parole de la Confédération Paysanne.
Ça fait des années qu'on réclame cette transparence, ils avaient toujours l'habitude de ne pas publier leurs comptes, d'être le plus opaque possible ou de n'en publier qu'une partie. Donc là voilà, on a l'impression que ça avance un petit peu et aujourd'hui c'est une victoire pour nous.
La Confédération va désormais se pencher sur ses comptes avec l'expertise de cabinets comptables et avec cette question de fond. L'empire Lactalis se construit-il au détriment de la rémunération des producteurs de lait ?
Pour nous, c'est inacceptable que les paysannes et paysans continuent à être payés en dessous de leur coût de production et que des groupes comme Lactalis et d'autres continuent à accaparer la valeur et à avoir des bénéfices et des chiffres d'affaires en augmentation. C'était le débat des États généraux, comment arriver à mieux partager la valeur ajoutée produite. On n'a répondu à rien et le gouvernement n'a répondu à rien avec la loi Egalim. Aujourd'hui, le chantier est encore totalement ouvert et ça ne peut pas durer longtemps.
La Confédération Paysanne qui juge par ailleurs regrettable que le gouvernement et les pouvoirs publics n'aient pas mis la pression eux-mêmes pour obliger Lactalis à publier ses comptes.
Un trafic quasiment normal aujourd'hui à la SNCF avec 9 TER sur 10, 98% des intercités et la totalité des TGV, Ouigo, RER et Transilien. Des perturbations subsistent ce matin dans la région Champagne-Ardenne et Pays de Loire. Et selon nos informations, la SNCF a finalement renoncé à poursuivre les cheminots qui ont exercé leur droit de retrait.
Les explications très attendues du PDG de Lubrizol, près d'un mois après l'incendie de l'usine de Rouen, classée Seveso.
Éric Schur doit être entendu ce matin à l'Assemblée nationale et cet après-midi par la commission d'enquête du Sénat. Sur le terrain, les opérations de dépollution commencent aujourd'hui. 1300 fûts endommagés à vider et à transférer au Havre, dont 160 contiennent des substances qui peuvent émettre du sulfure d'hydrogène et du mercaptan, de quoi inquiéter les riverains que Rudy Pupin a rencontrés.
Thierry habite rue du président Kennedy, à peine 500 mètres du site. Et savoir que des produits chimiques vont y être traités ne le rassure pas vraiment.
Les odeurs, les produits qui peuvent s'en dégager. Les premiers jours d'opération, on sera en dehors de la zone. On va partir en vacances, en fait, vu que c'est la Toussaint. Donc on va quitter les lieux pendant quelques jours, sachant que malheureusement, ça dure 2 mois. Donc c'est vrai que ça va être un peu compliqué de partir 2 mois. Pour être rassuré et puis pour que les enfants, en fait, puissent respirer peut-être de l'air qui soit pas pollué.
Un peu plus loin dans la même rue, Cindy, locataire d'une maison, dans laquelle elle ne se sent plus en sécurité.
Je ne sais pas si c'est bien cadré, j'espère, parce que vu les dangerosités des usines qui sont aux alentours, vaut mieux que ce soit bien cadré pour le bien-être de tous les habitants qui sont aux alentours, justement. On est au courant de rien, on ne sait pas quoi faire, et on se sent pas bien, on se sent étouffé chez nous.
Mais ces riverains ont conscience de la nécessité d'évacuer ce millier de fûts. Jean-François Domanger habite Impasse Lefèvre.
C'est aussi rassurant de se dire qu'ils vont enfin se débarrasser de ces fûts qui sont pas dans un caisson hermétique, donc qui craignent quoi. C'est sans doute à l'origine des odeurs et puis ça fait partie des produits qui n'ont pas brûlé et qui sont potentiellement extrêmement dangereux.
Pour éviter les odeurs, des brumisateurs diffuseront des produits sur le site afin de les neutraliser.
Reportage de Rudy Pupin de France Bleu Normandie. Ils seront fixés sur leur sort aujourd'hui. Les gérants du Cuba Libre, ce bar de Rouen, 14 jeunes avaient trouvé la mort, c'était il y a 3 ans, lors d'un anniversaire qui avait tourné au drame. Le procureur, lors du procès, a requis 4 ans de prison ferme, mettant en avant, Jean-Philippe Deniau, toute une série de négligences.
Nasser et Amirouche Boutrif ont admis ces négligences en cascade dans les travaux d'aménagement du sous-sol pour agrandir leur affaire. Un escalier escarpé, inadapté à l'accueil du public, l'absence de système d'aération et de désenfumage et l'application d'un matériau isolant inflammable sur les murs. Et puis, négligence ultime ce soir-là, la porte de secours de la cave était restée fermée à clé. Mais pour le procureur, ces négligences n'étaient pas si involontaires que cela. Les gérants ont sciemment voulu faire des économies dans les travaux et réaliser cette extension coûte que coûte sans la déclarer parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'obtiendraient jamais l'autorisation. Ils ont joué avec le principe du « pas vu, pas pris », a conclu le procureur. « J'ai jamais pensé au pire », s'est défendu Nasser Boutrif à l'audience. « Jamais pensé que ça serait mortel, mais je ne peux pas justifier l'injustifiable », concédait-il en reconnaissant qu'il serait normal qu'il soit lourdement condamné. Les avocats de la défense ont tout de même demandé à ce que leur client ne soit pas incarcéré. Réponse du tribunal à 14h.
Emmanuel Macron arrive à Mayotte ce matin pour parler lutte contre l'immigration clandestine et développement économique. Dans cet archipel, 48% des 256 000 habitants sont des étrangers, dont 95% de Comoriens qui ont fui la pauvreté. La liste des 30 finalistes pour le titre de Ballon d'Or 2019 dévoilée par le magazine France Football. Le classement sera établi par les journalistes spécialisés du monde entier. Deux absents de marque dans cette liste, le Croate Luka Modric, tenant du titre, et Neymar, le Brésilien du PSG. 4 Français en lice et les incontournables Messi et Ronaldo. Jean-Pierre Blimeau.
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, 5 fois titrés chacun, nommés dans cette course au meilleur joueur du monde, ce n'est pas une surprise. Pas plus que la présence du Hollandais Virgil van Dijk, le défenseur central champion d'Europe avec Liverpool. Le club anglais fait d'ailleurs entrer 7 joueurs dans la liste des 30, dont l'attaquant égyptien Mohamed Salah et le Camerounais Sadio Mané. 4 Français font partie de la sélection, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Karim Benzema et Hugo Lloris. Ce dernier, finaliste de la Ligue des Champions avec Tottenham, est également en lice pour le tout nouveau trophée Yashin du meilleur gardien du monde, aux côtés de Marc-André Ter Stegen, l'Allemand du Barça, ou du Brésilien de Liverpool, Alisson. Pour le trophée, Raymond Kopa, des moins de 21 ans, Mbappé, L'Oréal en dernier, ne peut pas concourir cette année, mais on y retrouve l'un des grands favoris, le Hollandais Matthijs de Ligt, défenseur de l'Ajax, transféré à la Juve. Chez les dames, la championne du monde américaine, grande favorite Rapinoe, est bien là, comme sa compatriote Alex Morgan, et 3 françaises, Wendy Renard, Amandine Henry et la gardienne Sarah Boisdi.
Suspense jusqu'au 2 décembre. Enfin, commencer par améliorer un plat que vous aimez déjà.
C'est le slogan, Agnès, d'une campagne qui débute aujourd'hui pour nous inciter à mieux manger.
Campagne nationale de santé publique France, où il est donc conseillé, sans surprise, de consommer des féculents complets, des légumes secs, des fruits, des crudités et d'une manière générale des plats faits maison, des aliments bio, de saison et produits localement. Et pour mieux comprendre les dérives de notre alimentation moderne, direction le Musée de l'Homme pour une exposition en compagnie de Célia Kiré.
À l'entrée de la dernière salle, la plus surprenante, un énorme caddie symbolise les excès de notre alimentation. Des salades lavées et emballées, des bouteilles d'eau en plastique interpellent sur nos modes de vie. Et en face, le crâne d'un taureau mort en 2012 surprend. Il représente à lui seul les ravages de l'élevage intensif pour Christophe Lavelle, commissaire de cette exposition.
C'est pas n'importe quel crâne, puisque c'est le crâne de Jocko Bene, le plus célèbre des taureaux, surnommé Jocko Siffredi, du fait qu'il a eu 300 000 vaches comme descendance. Il a passé sa vie à donner sa semence pour aller féconder de manière totalement artificielle et dizaines de milliers de vaches qui permettaient une mécanisation extraordinaire de la traite.
Les scientifiques décryptent ici les modes de production de la chasse à l'élevage intensif sans les juger. Le visiteur peut même être surpris par le bilan carbone de certaines tomates grâce à une application conçue par Samuel Rebullard, professeur d'agronomie.
Si on prend par exemple une tomate l'hiver qui va être française, on a un impact extrêmement fort et étrangement, si on prend l'espagnol, on a un impact un peu plus faible. Quand vous avez un camion qui est rempli de tomates, par kilo de tomates transportées, vous pouvez avoir un impact carbone qui n'est pas si important que ça comparé au chauffage des serres par exemple. Et on voit que finalement, entre le critère saison ou local, le critère saison est beaucoup plus important que le critère local.
Enfin, les scientifiques montrent sans parti pris à quel point les OGM ou les pesticides ont un bilan mitigé.
Cette exposition « Je mange donc je suis » est à découvrir à Paris au Musée de l'Homme jusqu'en juin 2020.